invite à répondre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, bah oui. Non, pardon. Par exemple, je te crois. Non, c'est non. Non, pardon. C'est simple. Comme tout à l'heure, c'est sexiste et illégal. Ça peut revenir. Quoi d'autre? Le sexisme est partout. Nous aussi. Voilà. Vous êtes au top. Donc l'idée, ça va être que vous fassiez, si vous êtes d'accord, une aide honneur pour la Rosalie qui va se mettre parallèle au camion. Donc on va la retourner et on va la... Et puis après, ça va commencer, ça va être joyeux. Et puis s'il y a des personnes qui ont envie de chanter pendant le trajet, on vous dira, il y a un moment où le chant est hyper libre. Voilà. Quoi d'autre? Merci d'être présent et présente. Alors voilà, il n'y a pas la direction assistée. Hop là, on remarque. Oh là là, que c'est beau! Je suis très forte. Je me fais mal moi-même.
Qu'est-ce que tu en attends en fait de ce festival? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi et pour les autres? Parce qu'on comprend que tu as envie que ça change aussi pour les autres.
J'espère vraiment que ça va pouvoir toucher un public qui ne s'intéresse pas du tout à la cause et qu'on ne mette pas à chaque fois les féministes à l'extrême, parce que dès qu'on emploie un terme, souvent les gens qui ne connaissent pas ou qui sont contre ça vont directement partir sur des extrémistes, que non, les féministes ne sont pas anti-hommes, pas du tout. On se bat plus pour des droits justement d'égalité. Donc j'espère pouvoir toucher un public qui ne se sent pas du tout concerné par le sujet et qui se disent en fin de compte, si j'étais née dans l'autre sexe, comment je le vivrais à l'heure actuelle?
Alors je crie,
non, pardon.
J'ai avorté et c'est ok.
Non, pardon.
Je ne suis pas désolée.
Non, pardon.
J'ai mes règles et je suis un homme.
Non, pardon.
Alors il y a des gens que ça fait rire. Ouais. On peut parler de la ménopause, on peut parler de tout ce que vous voulez en fait. J'ai plus mes règles et je t'emmerde. Non,
pardon.
Moi, je suis arrivée dans la région il y a un an à peu près. Et là, en septembre, je me suis dit, ça y est, je suis installée. Et maintenant, j'ai envie de m'impliquer dans la vie de la société ici, parce que sinon, je m'implique beaucoup dans mon travail, mais c'est souvent en dehors de Quimperlé. Et en fait, j'ai commencé en rejoignant un book club, donc un club de lecture centré sur les autrices à l'artère. Et c'est là que Mallory m'a parlé de la riposte. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop de chance. Je suis féministe depuis longtemps. J'arrive dans une région où je connais personne.
J'aime mes poils. Non, pardon. Alors n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de crier.
Un monde où ma fille gagnerait le même salaire que mon fils pour le même métier.
Oui.
Lors d'un rapport sexuel, je demande à mon partenaire d'arrêter ce qu'il fait parce que ça me fait mal. Il me répond, mais non, au contraire, tu vas voir, si je continue, tu auras du plaisir. Tu ne connais pas ton corps, tu devrais apprendre à le découvrir.
Ça dépasse mon bon moment.
J'aimerais vivre dans un monde où seule la volonté et le travail des femmes définissent leur place dans la société indépendamment de leur sexe.
Un monde où je n'aurais pas besoin d'éviter les rues sombres la nuit.
Dans un bar, un homme me met la main sur la cuisse parce que je porte une jupe. Je rentre chez moi, enfiler un pantalon pour me sentir en sécurité.
On ne doit pas traiter une femme différemment sous prétexte qu'elle est une femme.
Elle l'a cherchée! Elle a mis une mini-jupe!
Merci!
d'avoir une relation sexuelle avec moi en me plaquant brutalement contre une voiture. Il ne comprend pas que je refuse alors que rien ne laissait penser que j'aurais pu être d'accord. Le lendemain, il reconnaît quand même que son comportement ressemblait à une tentative de viol. Cela ne semble pas le choquer. Il m'a confié que sa sexualité s'inspire des films porno.
Nous sommes le pavillon noir de vous, fameuses entières.
Une égalité sur
tous les champs,
les femmes, les hommes
debout.
Et autres genres.
Debout.
Tout le monde sans préjugés envers
les femmes. Asservies, humiliées, les femmes. Achetées, vendues, violées. Sans définir, d'exploiter, les femmes. Nous sommes là pour affirmer, debout, femmes entières, nous ne nous laissons plus faire. Debout, debout, refusons le malheur des femmes.
J'en ai trois. Genre à rabord ou pas trop rempli.
Tiens,
Carbonate,
voilà.
Pour participer.
Exactement.
Quand on m'a proposé de faire l'atelier sur les produits ménagers, dans le cadre de la riposte, ce que j'ai expliqué au début, moi le côté zéro déchet, je suis plus du tout là-dedans parce que je suis convaincu qu'il faut aller sur d'autres choses pour si on veut faire changer les habitudes. Et donc ce qui m'intéressait, c'est plutôt dans le cadre de la riposte, de questionner sur la masculinité toxique, comme c'est écrit, donc sur la question de la virilité. Et donc qu'on soit juste entre hommes pour réfléchir, pour échanger, et puis se dire que les produits ménagers, c'est genre je l'ai pas dit, mais même si on est, comme disait Jérémy, on est en transition sur les questions de partage des tâches, on est quand même encore à 80% de tâches ménagères exercées par les femmes.
Attends, le bicarbonate de soude, c'est ça, on est d'accord?
Quelquefois, je me pose des questions sur la notion d'égalité. C'est une notion qui me dérange un petit peu dans le sens où je préférais qu'on parle d'équité. En fait, que ce soit juste, il y a des gens qui ont besoin de plus d'aide, de plus de choses. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile, que ça va être beaucoup plus fluide, et on n'a pas besoin des mêmes choses, en fait, quoi. Et je trouve que ce serait plus juste de parler d'équité plutôt que d'égalité, quoi.
Pourquoi avoir ces règles encore ? C'est sexiste, ça !
C'est sexiste et illégal ! C'est sexiste et illégal ! C'est sexiste et illégal !
La notion d'égalité est très abstraite, on va dire, aujourd'hui, entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que par les salaires, par exemple, ne serait-ce que par...
Ouais, mais là, je suis d'accord.
Là, c'est ouais. Le fameux plafond de verre, comme on dit, qu'on apprend, finalement, quand on fait des études économiques ou sociales, on sait ce que c'est le plafond de verre, mais les mentalités ont beaucoup de mal à changer sur ça.
Par rapport au congé menstruel, par exemple, bah moi je trouve ça génial en fait qu'on puisse proposer aux femmes qui peuvent avoir des règles un petit peu douloureuses en fait de prendre des jours de congé et de pas proposer ça aux hommes, tu vois, par exemple.
Mais je crois que ça commence à, ouais, il me semble, hein, voilà, à se mettre en place.
Mais tu vois, c'est dans ce sens-là que je parle d'équité, quoi. C'est de dire, voilà, nous, physiologiquement, voilà, on n'a pas nos règles, on peut pas être enceinte, enfin, etc., quoi. C'est physique, quoi.
Et du coup, je rebondis aussi, parce que du coup, tu parles de congé menstruel, mais ce que je trouve très bien aussi, qu'on met de plus en place, c'est le congé parental, enfin, dire pour l'homme, justement, qui les droits à poser plus, parce que du coup, ça joue dans l'autre sens, en fait. Du coup, l'homme, on dit, ouais, c'est bien, t'as eu tes papas, très bien, t'as droit à une semaine ou deux, je sais plus combien exactement, 11 jours. Et toi, c'est bon, tu peux retourner au boulot, voilà, c'est bon, quoi. En gros, entre guillemets, t'as fait le taf et tu rentres, enfin, tu retournes au boulot. L'écart, c'est rapide.
Je vais aller voir où ils en sont dans leur casserole, là. Alors, ça chauffe ?
Oui, mais ce qu'elle disait, justement...
Ça marche bien ou pas,
ça commence.
La peur, n'oublie n'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Pour tous les camarades qui luttent à réforma, pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandantes qui luttent au Chiapas, pour toutes les mères qui vous cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions. Pour rester vivantes ensemble, nous luttons. À bas le patriarcat, nous le détruirons. On incendiera tout.
Garçon manqué. Mais c'est quoi une fille manquée?
Une fille réussie.
J'ai entendu, c'est surtout une fille réussie.
Un monde sans sexisme est un monde sans domination, plein d'amour et de foi, et écolo en plus.
Et si vous venez là, c'est parce que vous avez envie de faire changer des mentalités d'hommes, d'autres hommes, ou est-ce que vous, vous vous sentez déjà en fait dans une métamorphose, dans une masculinité justement bienveillante, quoi, si on prend le contre-pied du toxique, quoi. C'est quoi la motivation d'être là, en fait?
Pour ma part, c'est de savoir identifier ma propre toxicité, déjà. C'est déjà se regarder avant de vouloir changer quoi que ce soit. Et réagir dans les situations, apprendre à réagir dans des situations. Pour moi, c'est cela.
Est-ce que vous pensez que vous avez une part de masculinité toxique?
Énormément, bien sûr.
Je sais pas.
Ah si, si, si.
Ça ne voit pas non plus, hein.
Si, je sais pas, dans le sens où il y a des fois, ma compagne m'exaspère, tu vois, au lieu d'être à l'écoute, elle va m'exaspérer.
Et ça, c'est toxique, ça c'est une masculinité toxique.
Ça peut approcher, au moins j'arrive à identifier des comportements en moi que je dois changer. Et je suis à la recherche de ce genre de solution pour l'échange, justement, pour trouver en moi mes manières de changer. C'est pour ça que je suis venu et que j'adore faire le ménage.
C'est ça aussi. Et vous?
C'est à une échelle individuelle où, en fait, en étant conscient de certaines choses, c'est après comment on arrive avec les gens de notre entourage à agir différemment. Et c'est comme ça, en fait, qu'on dilue un petit peu, qu'on fait passer certains messages, certains comportements, quoi. Voilà, on dit ah, vas-y, arrête, c'est pas drôle au final, des blagues un peu merdiques ou...
Ça peut être ça, par
voilà, exemple, c'est mon... Enfin, moi, je crois pas au truc un peu radical. Enfin, radical, je suis pas sûr que ça marche vraiment, quoi. C'est vrai, je trouve que c'est par l'exemple, en fait, que c'est le mieux, quoi, et de faire comprendre aux autres que, bon, voilà, en fait, tu peux être différent et ça... Tu seras pas moins... Tu seras pas plus con et tu seras pas...
T'as voulu jouer, je vais te mettre une raclée. J'ai fait du karaté, fallait pas me chercher. Si je dis non, c'est non, y'a rien d'autre à comprendre. Et si t'es con, t'es con, désolé de l'apprendre. Mon corps n'est pas une chose à ta disposition. Et j'ai clairement ma dose de cette domination. Si le temps d'une journée nous inversions les rôles, il y a fort à parier que tu trouverais ça moins drôle. Ta main sur mes fesses, ma main dans ta gueule. Ta main sur mes fesses, ma main dans ta gueule. Ça fait de bonnes heures que tes yeux de bovin me supplient d'accepter de boire avec toi du vin. J'ai refusé 3 fois, je suis à court d'arguments. Pourtant tu reviens vers moi, me propose de l'argent. Tu m'as prise pour une pute, maintenant tu pisses du sang. Fallait bien que tu percutes, ouais je sais c'est violent. J'aurais aimé te dire une seule fois je ne veux pas, plutôt que d'en arriver à te faire une clé de bras. Ta main sur mes fesses, ma main dans ta
gueule. Ça va maintenant ou pas?
Oui, ça va, super, ça va super.
Alors qu'est-ce que tu as fait toi comme atelier ce matin? Atelier d'écriture.
Ce matin j'ai participé à l'atelier d'écriture animé par Yuna Vizentin. Yuna Vizentin, c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'était hyper intéressant. On était une dizaine et elle nous a proposé de travailler sur le thème de l'illégitimité, se sentir illégitime. Ce qui est malheureusement bien souvent le cas dans notre société patriarcale, ressenti par, c'est souvent ce qui est ressenti par, par les femmes. Et donc on a eu une longue discussion, elle s'appuyait sur des textes. On a lu des textes donc de Marianne Bahafou, non, Myriam Bahafou, et de Isabelle Sorante. Sorante. De Isabelle Sorante.
Oui, c'est ça, Isabelle Sorante.
Le complexe de la sorcière, hein, Isabelle Sorante, et des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien de Myriam Bahafou. Donc vous avez lu des extraits ? Comment ça
s'est passé ? On a lu des extraits, et après la lecture de chaque extrait, on discutait de ce que ça nous... de ce que ça provoquait en nous. Ça a provoqué des discussions hyper intéressantes sur les, cette question d'illégitimité à être une femme, à être qui on est, à penser comme on pense, à se comporter comme on se comporte. Et dans cette société où les hommes, eux, ils ont le droit de parler fort, ils ont le droit de se comporter comme ils veulent, et les femmes, beaucoup moins. Et en fait, cette injonction à ne pas être trop bruyante, ne pas trop s'exprimer, être belle, être attirante et se taire. C'est, ça grince, hein.
Ça a fait écho en toi, en tout cas.
Ah oui, ça a fait écho en moi, ouais. Ça a fait écho en moi au niveau de la légitimité à pouvoir m'exprimer. Parce que j'ai la sensation que, personnellement, on m'a beaucoup, beaucoup demandé de taire mes émotions dans ma vie. Et que je suis justement à une période charnière de ma vie où je supporte plus ça. Je supporte vraiment plus du tout qu'on me demande de taire mes émotions. J'apprends moi-même à les identifier. Et alors du coup, si je les exprime et qu'elles sont niées, ça me fait sortir de moi-même. Donc c'était hyper intéressant de travailler sur ce sujet-là, particulièrement pour moi ce matin.
Est-ce que vous avez été amené à exprimer peut-être des frustrations, des émotions aussi? C'est allé jusque-là ou
Alors oui, comme on a beaucoup parlé, soit on a parlé sur nos visions des choses d'une manière générale, ou soit sur aussi nos parcours de vie et les moments où on s'est senti... où on a senti que la société où elle nous mettait dans une illégitimité. Et c'était quoi ta question ?
Est-ce que vous avez pu vous exprimer des émotions ? Est-ce que c'était le but de l'atelier ? Ou est-ce que c'était de discuter autour de cette frustration ? Mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à dire moi, j'ai ressenti ça à tel moment. Enfin, est-ce que c'était un prétexte à exprimer en fait les émotions refoulées, quoi ?
Tout à fait, parce que d'autant que c'était un travail d'écriture, c'était un atelier d'écriture. Donc il y a un moment où il a fallu prendre son crayon et coucher des mots sur le papier. Et effectivement, là, ce qui ressort, c'est vachement dans l'émotion personnelle. Et il y a eu des textes magnifiques qui ont été écrits. Il y a eu des larmes pendant l'atelier, il y a eu des choses très personnelles et très très fortes qui sont sorties en effet.
Est-ce que éventuellement, et après je te laisse tranquille, tu as un extrait qui t'a marqué plus que d'autres ? Alors je ne sais pas si c'était ce matin aussi, mais et que tu pourrais éventuellement nous lire ou...
Oui, je veux bien.
C'est gentil.
Je recherche.
Mais oui, prends le temps de chercher. Tu nous dis de qui c'est du coup l'extrait ?
Donc c'est un texte de Isabelle Sorante. Donc, qui est extrait du complexe de la sorcière. Et donc, voilà ce qu'elle dit dans cet extrait. Voilà ce qu'en vérité la sorcière avoue. Il y a dans ma conscience un principe trompeur. Je ne peux croire en moi, je peux croire qu'en vous. Ma conscience est incompétente. Je renonce à ma conscience. Le soupçon permanent de soi et la façon dont il surgit comme soudain observé du dedans par un œil extérieur à soi-même, un œil à la fois glacé et hostile, ce soupçon permanent de soi qui va d'un sentiment d'illégitimité, oh pas grand-chose, une gêne, un caillou dans la chaussure, le lointain sentiment de cacher quelque chose, une chose que vous ignorez, une chose qui vous ruinerait si elle se savait, ce lointain sentiment d'illégitimité qui parfois se rapproche comme si le temps s'abolissait, se rapproche et s'amplifie, et pourrait s'amplifier encore jusqu'à la haine de soi et à la confusion. Ce discret soupçon de soi-même si adorable, n'est-ce pas? Parce que c'est adorable une femme qui doute, alors qu'une femme qui ne doute pas. Ce soupçon de soi, si léger soit-il, est écho d'un craquement, d'une conscience qui craque en même temps que le bois fendu sous l'âge du bourreau qui s'occupait aussi de la fourniture du matériel, c'est-à-dire entre autres des bûches. Bûches qui étaient facturées à la famille de la sorcière, aux filles et aux sœurs, que parfois elle dénonçait dans le délire de la douleur. Ce permanent soupçon de soi comme un reproche qui fredonne, musique dissonante du doute, écho des cris et du craquement. Ce permanent soupçon de soi et tout ce qui s'ensuit, j'appelle ça complexe de la sorcière.
Mesdames et messieurs, nous sommes repartis! Est-ce que tout le monde est motivé pour chanter? Ouh! Chanter, c'est la vie c'est chanter! Alors, qui lance cette chanson? Il fait encore nuit, elles sentent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sentent et frissonnent.
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À
10
ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, oui, leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, oui, leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Quand il y a du poisson, il faut bien s'y faire.
Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez, bruit leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en cœur, oui, aucun...
Oui, moi je m'appelle Joun Kosmaou-Arjoun, j'anime du coup des stages et ateliers d'autodéfense féministe pour femmes, pour personnes LGBTQIA+, mais aussi pour enfants et ados, à partir de 8 ans. Et donc j'ai été formée par Garance, qui est une association en Belgique d'autodéfense féministe. Et donc du coup je diffuse des outils de la méthode Garance, qui mêle à la fois l'autodéfense physique, mais aussi l'autodéfense verbale, émotionnelle, voilà.
Et comment ça s'est passé en fait là déjà cet atelier-là? Est-ce que tu peux nous décrire, parce que j'ai pas pu y assister par souci aussi de laisser les participantes libres de pouvoir s'exprimer sans être voilà gênées ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux me le décrire un peu ce stage? Comment tu t'y prends? Comment voilà? À quoi ça ressemble?
Ouais, bah c'est un atelier d'initiation. Donc là, on est sur un format plutôt court. Les stages plus longs, c'est des stages de 2 jours. Et donc là, en 3 heures, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu un teaser des outils d'autodéfense féministe pour leur donner aussi envie d'approfondir plus et de s'entraîner davantage si elles le souhaitent, quoi. Et donc ça commence par d'abord une pose du cadre pour la confidentialité, la sécurité, s'assurer qu'on puisse traverser aussi des choses qui peuvent être brassantes ensemble, mais en sécurité. Et puis ensuite, on rentre assez vite dans le vif du sujet hein, pour comment poser ses limites, qu'est-ce que c'est une riposte efficace, quels sont les freins ou les obstacles qui peuvent être présents à la pose des limites. Ça peut être lié à ce qu'on a vécu avant, lié à nos conditionnements, parce qu'en tant que femme ou minorité de genre, on a l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les siens, il faut être gentil, poli, tout ça. Donc on parle de tout ça aussi avec une approche féministe intersectionnelle, donc se prendre en compte qu'on a aussi des parcours différents et que même si on a des expériences communes de sexisme, il y a aussi d'autres choses qui peuvent jouer. Par exemple, dans les situations au travail, il y a des rapports de hiérarchie. Dans les situations, il y a le racisme ou l'antisémitisme qui se mêlent. Enfin, du coup, de voir comment ça peut influencer nos expériences. Mais pour pouvoir se concentrer sur ce qui est efficace, pour pouvoir riposter et se donner de la force entre nous en partageant des histoires, des stratégies, des outils. Et donc après l'exercice sur la pose des limites, on rentre assez vite dans les questions de sous-défense physique, avec les points vulnérables.
Est-ce que tu les mets pour essayer de voilà, mieux comprendre? Est-ce que tu les immerges dans des situations en fait, d'agression pour savoir comment riposter, etc. Comment tu mènes tout cet atelier?
On s'appuie sur des mises en situation, notamment beaucoup sur l'autodéfense verbale avec des cartes situations qu'on va tirer. Et après, sur les questions physiques, on peut parler de situations, mais on ne va pas forcément avoir une personne qui mime l'agresseur, qui va être dangereux, parce qu'on n'a pas envie non plus que ça déclenche des choses pas chouettes. Et le but, c'est de pouvoir s'entraîner dans un cadre de sécurité et aussi d'inscrire dans son corps des mouvements, donc un peu comme on s'entraîne avec une choré en danse, quoi. Mm-hmm. Des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est de l'ordre de frapper, coup de pied, coup de poing, tout ça. Et donc de réfléchir à où est-ce que je le ferais et de s'entraîner aussi à sortir la force, la colère, à crier. Et parce que du coup, ça sera plus facilement remobilisable si jamais un jour on se retrouve dans une situation où on en a besoin pour se défendre.
Je fais des rêves en pagaille, le rire me chamaille. Je vois courir de la marmaille, mes hormones me travaillent, titillent mes failles, je fais des rêves en pagaille.
Finalement, c'est s'approprier déjà un peu le corps en tant que, comment je pourrais dire, riposteur, quoi, en fait, c'est un peu ça.
Ouais, c'est vraiment se rendre compte qu'on a le droit de se défendre. Déjà, ça c'est un des retours qu'on a eu pendant la ronde, c'est qu'en fait on a le droit, on est légitime à se défendre. On n'a pas à se faire marcher sur les pieds tout le temps, on n'a pas à devoir reculer pour laisser la place, on n'a pas à tout le temps être poli. Rien que déjà savoir s'écouter et sentir quand ça va pas et se dire j'ai le droit maintenant de riposter, déjà c'est hyper important pour une riposte, au-delà des techniques.
C'est un peu la première démarche, la première marche, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a des situations dans lesquelles on peut être hyper à l'aise de faire ça, et d'autres situations où c'est hyper compliqué. On a aussi parlé de violences intrafamiliales. Enfin, il y a des contextes qui font qu'on a des enjeux de sécurité, des enjeux affectifs, qui font que ces obstacles sont encore plus présents. Mais le but, c'est pas de les minimiser, mais plutôt de voir, bah, du coup, comment on fait autrement, quoi, et comment je peux riposter quand même en prenant en compte ces enjeux.
Qu'est-ce que tu remarques à chaque fois de la part des participantes, finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient systématiquement? Légitimité, peur, je ne sais pas, mais...
Ouais, ce qui revient systématiquement, c'est... moi, je sens, bah, encore plus dans les stages de deux jours, mais vraiment un processus entre le début, où on n'ose pas trop, où on commence à se faire des déclics, et la fin des exercices physiques, où il y a un truc de lâcher prise, mais de se laisser autoriser à la colère. Et j'ai l'impression que ce truc de bocal sur la colère en nous, qu'on n'a pas droit d'y avoir accès, et du coup, j'ai l'impression que quelque chose qui est fort dans l'autodéfense, c'est que du coup, de se dire, bah, en fait, on peut lâcher, quoi. On peut lâcher, on peut crier, on peut frapper toutes ses forces et tout ça, et souvent, le premier coup, il est timide, parce qu'on n'a pas envie de faire mal, on fait un petit sourire gêné et tout. Et à la fin, en fait, il y a une espèce de puissance qui sort, qui surprend, elle se surprenne elle-même, elle surprenne le groupe. Et là, on est sur quelque chose d'hyper puissant ensemble et qui fait partie de ce truc de donner l'autorisation et de dire qu'on est légitime à le faire. Et ça, j'ai l'impression, enfin, en tout cas de mon expérience, avec chaque atelier, même des ateliers courts, il y a ce processus-là qui s'enclenche et on sème ces graines-là, quoi.
Qu'on n'a pas marre, on le devient. Je fais des rêves en pagaille, la rire me chamaille. Je vois courir de la marmaille, mes hormones me travaillent, titillent mes failles. Je fais des rêves en pagaille, la rire me chamaille. Je vois courir de la marmaille, mes hormones me travaillent, titillent mes failles.
Pardon, nous allons riposter. Non, pardon.
Nous allons nous entraîner.
Non, pardon.
Et nous allons riposter.
Non, pardon.
Ah, oh, c'est bon d'être avec vous.
Vous êtes bien toutes concentrées. Donc là, on est à l'artère. L'atelier broderie a démarré depuis une heure, je pense, à peu près. Une heure et demie, c'est ça? Je ne sais pas. 15 heures, oui, c'est ça. Et donc, toutes les participantes sont très concentrées. Vous êtes peut-être certaines avaient déjà fait de la broderie ou pas? Ou c'est une découverte aussi?
Une découverte.
Ouais, c'est une découverte. Et là, tu as écrit quoi?
Liberté.
Et donc toi, tu as choisi un tissu différent, des motifs différents. Ouais. C'est joli aussi. Et tu as écrit « femelle ingrate ».
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté ? Nos désirs font désordre. Avec... Alors toi, tu as choisi plusieurs couleurs pour,
oui,
pour les bouts.
Voilà, les mots forts en rouge,
ouais,
sur un petit sac pour aller faire ses courses. Ça peut être très sympathique. Mais c'est chouette. C'est chouette de se retrouver avec un groupe de femmes, voilà, de pouvoir échanger ensemble. Très sympathique.
Ouais.
Ouais.
Ok. Il y avait des attentes particulières en venant à cet atelier ?
Pas forcément. Se retrouver ensemble, rigoler, échanger, et puis être très concentrée.
Tu avais envie de ça ?
Ouais.
C'est vrai, parce que tu as besoin
Non, mais bon,
t'as besoin d'un espace de concentration ?
Pas du tout, mais c'était l'occasion, voilà. Et puis avec une super intervenante, Émilie, qui est très sympathique.
Oubliez du passé, les femmes, nous qui avons une histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le pavillon noir. Debout, femmes entières, nous ne nous laissons plus faire.
J'avais pas mal de matériel parce que j'en fais quand même beaucoup, des broderies. C'est essentiellement mes cadeaux, en fait, des broderies actuellement, que je fais moi-même. Donc j'avais quand même pas mal de supports, de tissus, tout ça.
Et en général, tu brodes sur quoi, alors, sur quel
support ? En général, je fais quand même du point de croix, moi. Je suis plus à l'aise avec le point de croix. Mais là, on était plutôt dans l'idée de quelque chose au niveau récup, au niveau tissu et fil. Donc ça s'y prêtait plus, le point de broderie classique.
Ok.
Voilà.
Mais après, c'est sur un t-shirt, sur un sac, enfin...
Alors là, du coup, il y a plusieurs tote bags, il y a plusieurs t-shirts. Et après, même les petites écritures qu'elles font, elles peuvent les mettre sur un autre support aussi, enfin, voilà.
Ah oui, tu peux ensuite... Moi, je connais rien, hein, donc... Après, tu peux recoudre sur n'importe quel tissu, quoi.
Bah oui, carrément, ouais, tu peux mettre ça sur un sac, ou alors tu peux le mettre dans un cadre aussi, c'est possible,
oui,
de
tu
faire...
Sais, tu peux l'exposer en...
Ouais, ouais,
en
carrément.
Cadre.
Ouais, ouais, donc il y a vraiment plein de possibilités, quoi, parce que là, c'est vrai que les filles vont avoir leurs petits t-shirts brodés personnellement, les tote bags vont pouvoir s'exposer fièrement dans la rue... C'est plutôt sympa, ça permet de personnaliser aussi ces objets, quoi.
Et toi, c'est un moyen d'expression, alors, si je comprends bien aussi.
Oui, d'une certaine façon, oui. Bon, avant, je m'exprimais surtout avec tous les badges que j'ai sur mes vestes, et là, maintenant, oui, je commence à broder aussi mes fringues. Donc voilà.
Et donc, toi, qu'est-ce que t'as écrit ?
Alors moi, j'ai écrit « Ni pull, ni chemise
»,
un slogan proposé par une amie juste à côté. Et voilà, une petite touche humoristique pour allier broderie et... Et slogan féministe.
Et tu sais où tu vas le mettre ?
Sur un t-shirt.
Sur un t-shirt.
Ouais, ouais, ouais. Pour pouvoir l'afficher fièrement. Ou sur un pull, mais ça aura moins de sens.
Donc tu viens de Rennes quand même.
Ouais.
Et comment t'as eu l'information alors ?
Par ma sœur. Et puis on est venu entre copines ici. Je sais qu'il y a aussi des manifestations à Rennes, mais c'était aussi l'occasion de faire un atelier à plusieurs. Et c'est aussi bien, là, un samedi après-midi d'hiver... De prendre le temps aussi pour faire des choses au calme.
Donc c'est toi la sœur ?
Ouais, c'est moi.
Ça. Et t'habites à Quimperlé ?
Ouais.
Ok. T'as diffusé jusqu'à Rennes, quoi.
Ouais, jusqu'à Rennes et jusqu'à Lannion.
Ok. Bon, je vous laisse, hein, parce que ça demande de la concentration. J'ai pas envie de vous perturber de trop. Mais merci en tout cas d'avoir joué le jeu.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, des féministes et radicales et en colère.
J'ai un texte à lire qui a été écrit par la poète Audre Lorde en 1977 à Chicago. Et j'ai pensé que ça résonnerait assez bien avec tout ce qui a été dit et entendu aujourd'hui. Quels sont les mots qui vous manquent encore ? Qu'avez-vous besoin de dire ? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtre ? Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi. Une poète guerrière noire qui fait son boulot. Venu vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre ? Et bien sûr, j'ai peur, car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse, parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue de l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère, Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. Dans ce pays où la différence raciale, quand elle n'est pas dite, crée une distorsion permanente du regard, les femmes noires ont été d'une part toujours extrêmement visibles, d'autre part rendues invisibles par l'effet de dépersonnalisation inhérente au racisme. Même au sein du mouvement des femmes, nous avons dû et devons encore nous battre pour cette visibilité de notre négritude, ce qui nous rend d'ailleurs extrêmement vulnérables. Car pour survivre dans la bouche de ce dragon appelé Amérique, et ici appelé France, nous avons dû apprendre cette première vitale leçon. Nous n'étions pas censés survivre, pas en tant qu'être humain. Et la plupart d'entre vous non plus, que vous soyez noirs ou non. Or, cette visibilité, qui nous rend tellement vulnérables, est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous ou nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne nos terres. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur.
Merci. Est-ce qu'une autre personne a envie de prendre la parole ? Alors, il est possible aussi de continuer notre marche joyeuse, déterminée et colorée. Jusqu'à la place de
avec les femmes du monde entier, solidarité avec les femmes du monde entier, solidarité avec les femmes du monde entier, solidarité avec les femmes du monde entier.
Le documentaire a été réalisé par La Barcasson avec la participation active de la riposte quimperloise. Vous avez entendu deux morceaux de Betty Loop ainsi que des chants de la chorale militante Les Émeutières de Mouélan. Merci à tous et bonne riposte.